Lucas Moreno, vous êtes né à Montevideo, en Uruguay, mais vous êtes en Suisse depuis que vous avez 8 ans, je crois.
Exactement.
Hein, vous étiez donc assez gamin. Ces origines sud-américaines, est-ce qu'elles ont laissé des traces identifiables, des empreintes en vous, en dehors de votre remarquable capacité à décrire une nature luxuriante, par exemple?
Écoutez, est-ce que je suis... porteur d'une certaine culture sud-américaine, enfin uruguayenne, en l'occurrence du Rio de la Plata, parce que je viens de Montevideo, donc qui est au nord du Rio de la Plata, au sud on a Buenos Aires, donc il y a une unité culturelle qui est assez forte. Ce sont des endroits où on aime beaucoup manger, c'est l'Amérique du Sud, il y a la chaleur humaine, il y a la joie, mais en même temps il y a beaucoup de tristesse. C'est quand même c'est le pays du tango.
D'une mélancolie féroce,
absolument féroce. Et à ce niveau-là, je dirais que oui, peut-être que j'ai hérité de cet aspect-là des choses. Je pense pouvoir le dire sans me tromper.
Oui.
Mélancolie, nostalgie, la langue aussi, étant donné que j'ai toujours parlé l'espagnol à la maison. Donc ma langue maternelle c'est l'espagnol, mais ma langue de culture c'est le français.
Vous écrivez en français, évidemment.
J'écris en français, il ne viendrait pas à l'idée d'écrire dans une autre langue qu'en français.
La langue intime, finalement, l'espagnol.
Voilà.
C'est peut-être la langue des rêves ?
C'est la langue... Non. Rêve en français.
Je rêve en français.
Enfin, je pense.
Je rêve en couleur,
mes rêves, mais normalement...
Mais normalement, c'est en français.
Mais je parle à ma fille, voilà, langue du cœur, je parle à ma fille en espagnol.
Oui. Je vous posais la question parce que, d'une part, je ne sais pas qui a écrit la quatrième de couverture, mais on y cite Luis Borges, par exemple. Mm-hmm. Et puis, je me disais que les cultures de... les cultures sud-américaines, disons, semblent entretenir avec l'invisible, avec le mystère de l'homme, un lien plus direct et plus imaginatif que le nôtre, en tout cas moins cartésien. Mm-hmm. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous vous sentez éventuellement un peu héritier de quelque chose comme ça?
Je me sens très proche, oui, du réalisme magique, tout simplement parce que c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup. Borges, c'est un de mes auteurs préférés. C'est vrai que c'est une littérature de la magie, du non-dit, du secret, du mystérieux, du caché. Et dans mes nouvelles, il y a beaucoup de cela. D'ailleurs, tout à l'heure, avant l'interlude musical, vous me demandiez comment on pouvait injecter autant de noirceur dans des textes sans être athée, enfin je ne sais plus exactement quelle est la question, mais il y a des choses qui se sont glissées dans mes textes, peut-être de manière inconsciente aussi. Comme chez tout auteur, mais c'est vrai que peut-être chez moi, dans cette démarche-là, dans ce recueil-là, c'est assez visible, parce que pour ces nouvelles-là, je suis parti d'une idée. Moi, je suis très anglo-saxon dans mon écriture, dans mon approche de la littérature, je pars d'une idée, le fameux what if, si, américain, enfin, anglo-saxon de la science-fiction. Je pars d'une idée originale, d'une idée qui me fait frémir, qui m'intéresse, et ensuite je brode autour de l'idée, en superposant des couches narratives de plus en plus épaisses, et puis en mettant vraiment l'accent sur la structure, sur la narration, et donc souvent avec un dénouement inattendu, ce genre de choses, ne pas trop prendre le lecteur par la main, le surprendre, mais avant tout le moteur, c'est quand même
ne pas tout lui expliquer,
ce niveau-là, c'est pour ça que je parlais d'approche un peu anglo-saxonne ou science-fictive, c'est ne pas prendre le lecteur par la main et se laisser aussi surprendre soi-même au niveau de la charge émotionnelle et même parfois thématique qu'on met dans ces textes, vu qu'on a toujours le rempart, enfin le filet de sécurité de cette structure narrative très forte qui existait en amont de l'écriture. Je pars toujours d'un plan. Donc voilà.
Je construis de manière très rigoureuse.
Oui, je crois qu'on peut
ce
dire.
Ce qu'on sent d'ailleurs, parce que je me demande d'ailleurs si on peut s'en sortir dans ce genre de nouvelles, dans ce genre de récits, si on n'a pas construit avant.
Voilà, pour certaines nouvelles, ce serait difficile, je pense. Ouais.
Parce que tout, enfin non pas tout, mais enfin évidemment qu'on suit l'aventure, mais tout tient dans la chute, c'est-à-dire là où vous voulez nous mener. Si vous même ne savez pas la fin, il est impossible de la construire.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Alors, tout ce livre qui est composé de nouvelles, je n'ai pas regardé le nombre d'ailleurs, il y en a 9.
Réparties en deux
chapitres, deux grandes parties. Donc toutes ces nouvelles révèlent en creux un portrait donc des hommes, de l'humain, un portrait souvent difficile à soutenir, tant vous le présentez comme un être marchant toujours au bord de la folie, de la déliquescence, de la mort, lorsqu'ils n'y sombrent pas tout à fait. C'est curieux. Non, alors, je vous posais la question de la croyance. Je me dis que la foi, moi qui n'en ai pas, doit au moins donner de l'humain, créature tout de même faite à l'image de Dieu. Enfin, je ne dis pas de bêtises. Non, pas tout à fait. On n'est pas fait à l'image de...
C'est un grand débat théologique, là.
Pour moi, je pensais qu'il y avait au moins ça, c'était ça. C'est, voilà, d'en faire un être aussi sombre, aussi torturé, aussi cruel, aussi... Enfin, de révéler toute la part du monstre chez l'humain, et assez peu la part de l'ange, donc.
Tout à fait, mais moi, je pense que... Bah, comme tout être humain, et comme tout auteur, je suis porteur d'une noirceur, je suis porteur aussi d'espoir et de joie. Il se trouve que dans ce projet littéraire là en particulier, je me suis vraiment concentré sur les peurs souterraines qui nous peuplent, sur les angoisses qui nous peuplent, sur beaucoup de noirceur, sur
c'est le dragon de fumée.
Le fameux dragon de fumée. C'est vraiment intéressant que vous disiez ça. Et, parce que, ben, voilà, on n'a pas parlé tout à l'heure, ça vient de manière spontanée. Le dragon de fumée qui apparaît donc dans ma nouvelle Comme au premier jour révèle un petit peu tout ce que je peine un peu à dire maintenant. Je peine à mettre des mots là-dessus. Il s'agit d'un personnage qui est victime
un personnage
de
bien
cauchemar,
falot, bien
voilà,
pâle,
tout
bien
à fait
terne,
conventionnel, terne, qui tout à coup commence à être. Enfin, ça fait longtemps qu'il souffre de cauchemars, mais tout à coup les cauchemars commencent à devenir de plus en plus forts. Il se réveille dans sa baignoire avec dans une main une lame de rasoir et l'autre poignet ensanglanté. Donc ces cauchemars commencent à prendre une proportion telle dans sa vie qu'il ne peut plus les ignorer. Donc il va voir des spécialistes, des psychiatres, ça fonctionne pas. Il finit par aller voir un docteur chinois qui exerce la médecine chinoise ainsi que toute une série d'autres disciplines un peu alternatives. Et grâce à l'aide de ce docteur, il va commencer à se réveiller et à comprendre le mal qu'il porte en lui. Et le docteur, à un moment donné, lui dit « Ce n'est pas grave tout ça, il faut simplement que vous en saisissiez les contours. Il s'agit d'un dragon de fumée. » C'est-à-dire que c'est un dragon, donc c'est un être effrayant, agressif,
malfaisant,
mais à la fois il est fait de fumée. Donc parfois, il suffit simplement de mettre la main, de souffler dessus, ou alors de passer la main au travers, et tout est dissous. Et ce qui se passe, c'est que ce personnage est porteur d'une...
Ne dites pas tout.
Non, voilà, mais d'une souffrance...
Ah non,
qui,
ouais, une non, souffrance voilà, assez curieuse,
ouais,
d'ailleurs.
Tout à fait. Mmh. Mais...
Enfin, peu importe. On va pas parler de nouvelles par nouvelles parce que elles sont. On peut rien en dire.
Ouais.
On peut
tout
pas.
Tient dans la
on
chute,
peut jamais en raconter évidemment
ouais.
la fin. Mais les situations, voilà, sont des situations parfaitement. Pour la première partie en tout cas, des situations parfaitement normales. Je veux dire, vous partez d'une situation tout à fait réaliste et très simple, avec un goût certain pour le sang, pour la chair éclatée, pour la violence.
Il y a des parties gore.
N'hésitant pas parfois à manier le gore, comme dans les films de Jean. Je pense à cette nouvelle Cannibale. J'en lis un extrait,
vous voulez
bien. Je ne sais pas où partir. Peut-être en commençant comme ça. Une portion de Jasper. Jasper, c'est l'un des personnages. C'est un couple, hein, Johanna et Jasper, qui ont embarqué dans leur folie. Dans un premier temps, une folie assez charmante, qui ont embarqué un jeune étudiant, un jeune homme un peu paumé, qui ne sait pas trop qui il est. Une portion de Jasper apparaît sur ma droite. Il se baisse, recule, entreprend une série de mouvements réguliers dont le détail m'échappe. L'essentiel de l'action se déroule dans l'angle mort de ma vision. J'entrevois seulement des parcelles de chair, flasques, qui vibrent au rythme d'un va-et-vient grinçant, un son strident qui agresse mes tympans. De temps en temps, je perçois un reflet métallique. Plusieurs minutes s'écoulent, pour autant que ma notion du temps soit fiable, puis le grincement s'amenuise, bientôt remplacé par un sifflement qui évoque les tonalités graves d'un pipeau. Des effluves de chair calcinée parviennent à mes narines, à travers le voile gélatineux. Affolée, j'essaie de crier, de bouger en pure perte. Ma terreur devra rester intérieure, comme celle d'un homme qu'on enterre vivant. Jasper fait-il exprès d'opérer à la dérobée, d'entretenir le mystère ? Sans doute, car l'atrocité qui émerge soudain devant mes yeux est l'effet d'un électrochoc. Le géant surgit en un instant aux côtés de sa compagne, lui présente une main tranchée au niveau du poignet. Bon, Johanna l'a saisi, la porte à sa bouche, puis entreprendre d'en arracher l'annulaire à coups de canine, etc., etc.
Joyeux voilà. Noël.
Joyeux Noël. Ça se passe à Noël, ça ?
Non, non.
Ah, bon, d'accord.
Ça m'est venu comme ça.
Voilà. Alors ça, c'est un des styles, une des images. Mais alors, chaque nouvelle embarque ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas du tout un livre de nouvelles gore, par exemple. Il y en a une comme ça qui se termine un peu dans un. Enfin non, d'ailleurs, qui ne se termine pas du tout dans un bain de sang, au demeurant. Elle se termine dans une remarquable fusion.
Oui, enfin, il y a quand même un corps
fusion.
Qui est atrocement mutilé.
Oui, enfin, bon.
Il
n'y
a pas de sang parce que les plaies ont été cautérisées.
Oui.
Mais à part ça, effectivement, disons, le propos principal, c'est pas ça, c'est pas la boucherie, le côté gore, mais la fusion des corps et des âmes qui est inclus dans cette cérémonie cannibale.
Ben, c'est bien ce que raconte le cannibalisme, d'ailleurs, si je me tourne vers quelqu'un qui a un peu étudié ethnographie et,
Par absorption.
Et rite et par absorption
les
du cœur, du foie.
On ne fait qu'un. Ouais, c'est une nouvelle, d'ailleurs, qu'on pourrait analyser sous un angle d'anthropologie religieuse, typiquement. Je ne sais pas, d'ailleurs, si Lucas a eu des petites réminiscences durant l'écriture à ce niveau-là, mais c'est vrai que... Mais vous disiez quelque chose d'intéressant. Et de très juste, c'est difficile de situer véritablement ce recueil dans un genre spécifique, parce que Lucas, bon, aussi de par ses intérêts et ses goûts, ça transparaît assez bien dans ce premier recueil, et quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, d'une part, et d'autre part, cette diversité qu'il porte en lui transparaît par un caractère assez hybride au niveau de des thèmes, mais y compris des veines qu'il fait croiser dans des nouvelles. Il y a des éléments de pur roman noir qui se croisent avec du fantastique gore ou beaucoup plus intériorisé.
Il y a de la pure psychologique,
science. Oui, une dimension psychologique qui est toujours là, évidemment, dans la peinture des personnages et de leur tribulation, pour pas dire pire. Puis aussi de la science-fiction pure. Mais sous cet angle-là, je dirais qu'il est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que... vous me demandiez aussi une chose, j'avais pas fini de ça m'est,
son
m'est sorti de la tête.
Non.
Oui. Au niveau de la cohérence, ce que j'aime bien et ce qui est, je trouve, très fort, parce que je l'ai relu, j'ai relu aussi le... D'abord, j'ai lu toutes ces nouvelles bien avant qu'elles aient été publiées, et puis j'ai aussi relu le tout, une fois que ça a été fait chez Elis et Las. Ce qui m'a frappé, vous avez dit, une écriture franche, directe, comme ça, qui fait beaucoup penser aux techniques d'écriture, notamment américaines, la tradition du hard-boiled et tout ça. Mais c'est surtout un livre, je trouve, sans complexe. Et moi, ça me fait plaisir, parce qu'en Suisse, on a toujours cette idée que la littérature suisse doit être marquée par une forme d'austérité.
Ramu a quand même fait beaucoup de mal. Auteur absolument
du mal
merveilleux.
Du mal en même temps, parce que c'est toujours, évidemment, on ne peut être que dans les paradoxes si on se penche sur la littérature suisse. Sauf qu'évidemment, moi, je l'inclus tout de suite, parce que j'aime les genres, mais j'aime aussi la littérature dite dramatique, littérature blanche, romanesque, classique, et des choses que j'adore. Mais ça, c'est une question qui se pose souvent dans l'écriture, quand on parle d'un auteur suisse. On a l'impression qu'il se débat avec lui-même, que les personnages se débattent avec eux-mêmes. C'est dramatimiste, quoi, finalement.
Là, pas du tout, alors.
Et là, pas du tout. C'est une écriture, justement, sans complexe. Alors, il y a des références à la Suisse, en l'occurrence. Il y a une inscription locale.
À Genevoise, et même entre la Bâtie et Bistrot de la Tour,
mes textes,
à peu près. Hein, c'est là que
le récit se déroule en Suisse. C'est ce que je connais.
Au bord de l'Arve, enfin par là. Quoi.
Ouais.
Et en même temps, sans avoir le souci vraiment d'être marqué avec le stempf helvétique, je suis dans cette littérature-là. Donc c'est vraiment, il ouvre les fenêtres. Je trouve qu'il ouvre beaucoup de fenêtres, et c'est souvent l'une des forces de la littérature de genre, c'est qu'elle aime explorer des territoires intérieurs ou pas. Mais c'est un des points forts de son écriture.
C'est-à-dire, on recevait il n'y a pas si longtemps, c'était la semaine dernière, Vincent Gessler, que vous connaissez forcément, pour son dernier, dernier roman, Mimosa, qui est aussi un roman alors particulièrement sans complexe et qui éclate à peu près tous les genres et tous les styles, une espèce de thriller de science-fiction très, très étrange et très barré. Est-ce que ça veut dire que cette littérature de... Je ne sais pas si on peut dire science-fiction, c'est plus exactement tout à fait cela, c'est autre chose. C'est de la littérature, point final peut-être. là en l'occurrence des nouvelles, mais est-ce que en Suisse il se passe quelque chose de ce point de vue-là, du point de vue de la littérature d'imaginaire, enfin il n'y a pas de mot, il y a un mot pour dire cette littérature-là aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que
de l'imaginaire, j'en sais rien.
Oui, enfin, littérature d'imaginaire, c'est un terme un peu passe-partout, mais qui a quand même l'avantage de bien indiquer de quoi il s'agit, parce que je pense que c'est les journalistes qui ont inventé ça, il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, et on inclut volontiers dans littérature d'imaginaire la fantasy, la science-fiction et le fantastique. Enfin bref, je pense que quand on dit littérature de l'imaginaire, les gens qui aiment ça savent de quoi on parle, sans entrer forcément dans un débat d'académiciens ou d'analyse des genres, etc. Est-ce qu'il y a un mouvement en Suisse ? Oui. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, les choses commencent à s'activer. Récemment, on a assisté quelque part, enfin stricto sensu, à un événement historique, étant donné que 4 livres d'une certaine ampleur, disons, sont parus professionnellement, donc relevant de la science-fiction, sont parus en l'espace de 2 mois. Il s'agit d'Heptagone de Georges Panchard, Quantica de Laurence Sunner. En fait, je crois que c'est le nom de la trilogie et non pas du premier tome. Excusez-moi si je me trompe. Et puis Mimosa de Vincent Gessler, ainsi que mon recueil de nouvelles. Mm-hmm.
Sans compter une anthologie aussi assez récente.
Oui, alors je crois qu'elle date
d'il y a une année
ou deux. Vous parlez de Dimension Suisse ou de Défricheurs
d'imaginaire ? Il y en a d'imaginaire. Deux qui sont parus en plus.
Voilà, ouais. Il y a Défricheurs d'imaginaire qui porte donc sur la SF, enfin qui fait remonter la science-fiction en Suisse romande au 19e siècle qui s'arrête au 20e, et ensuite Dimension Suisse prend le relais avec des auteurs contemporains actuels. Mmh. Ouais. Donc effectivement, ça pétarade, je pense qu'on peut le dire. On s'est aussi réunis en groupe depuis le début des années 2000. Il y a des rencontres littéraires à Genève, des rencontres littéraires à Lausanne. Il y a beaucoup d'émulations, des projets qui voient le jour, de festivals, d'anthologies, des groupes d'écriture qui sont mis en place, parce que pour rebondir sur ce que disait Thibaut tout à l'heure par rapport à une certaine forme de littérature suisse, enfin tel qu'on l'imagine ou qu'on la fantasme, j'irais même plus loin, je dirais que c'est peut-être parfois la littérature francophone qui pâtit d'un certain poids de romantisme, d'une certaine vision romantique de l'auteur. L'auteur attend tout près de sa fenêtre le rayon d'inspiration divine qui vient le frapper de manière magique en plein milieu de la nuit, et tout à coup il se réveille, hop, et il commence à écrire des pages et des pages et des pages de textes majestueux. En fait, pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Et si on interroge,
je crois que ça fonctionne pour personne.
Voilà, j'allais dire, si on interroge quand même pas mal d'auteurs qui sont professionnels, qui écrivent souvent, ça fonctionne pas comme ça. Donc pour moi, l'écriture, c'est un travail, c'est un art qui a une composante d'artisanat, donc il faut quand même maîtriser un petit peu les outils. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de ces activités, donc en Suisse romande littéraire, on a notamment fait des groupes d'écriture très pointus, très exigeants, où il était question d'écrire et ensuite se faire mitrailler.
Et se faire tailler en pièces.
Voilà, exactement, par des lecteurs. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup appris comme ça, c'est-à-dire sans filet romantique, sans ego, quoi. Il faut laisser son ego de côté à un moment donné, et puis se dire tout ce que je porte en moi, tout ce qui est, relève de l'émotionnel, ça personne peut me dire comment je dois faire, ne peut l'attaquer. Mais il y a une part d'artisanat. Il faut quand même maîtriser la base, quoi.
Mais on sent bien chez vous que, alors comme vous le disiez à l'instant, Thibaut Kayser, le style est un style extrêmement direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures, on ne cherche pas à faire de la littérature. C'est-à-dire, avant tout, on raconte une histoire. C'est un récit qui, avant tout, doit être solide, cohérent, extrêmement bien construit. Et on sent que votre préoccupation d'auteur, elle est là avant tout.
Oui, pour moi,
et
le style...
Et si c'est bien construit, franchement, le style n'a finalement pas grande importance.
Disons, pour moi, le style est au service du récit. Dans ce genre de texte-là, là, il s'agit de nouvelles à idées, à chute. Thibaut a employé le terme hard-boiled tout à l'heure, je me retrouve beaucoup là-dedans. J'adore, le hard-boiled...
C'est une bouillie, bouillie dure.
C'est le moment où le roman policier est devenu du polar, et avec Dashiell Hammett, ces années 30, Hammett, Chandler, lorsque le... le policier est sorti un peu des maisons bourgeoises pour aller dans la rue, quoi, et pour aller vraiment.
C'est plus Sherlock Holmes.
C'est plus Sherlock Holmes.
On a passé des histoires de détectives. Voilà. Proprette, gentille, à une littérature beaucoup plus sociale, dark, ouais,
avec une vision aussi plus réaliste, ouais, tout à fait. Juste pour peut-être avant qu'on aille trop loin, peut-être pour finir sur ce qu'on vient de dire, je crois en effet qu'il y a une émergence d'une nouvelle génération de littérature de genre. Et pour faire une comparaison, pour pas non plus trop s'apesantir là-dessus. On peut faire une comparaison avec ce qui se passe au niveau aussi de la musique en Suisse. On a beaucoup de jeunes musiciens maintenant.
De grands talents.
Et de grands talents qui marchent bien, qui sont diffusés, qui ont non seulement un succès critique, mais aussi
populaire. Et qui ont une vraie dimension internationale.
Ouais. Bon, et ça, il y a 15 ans, non, c'est pas possible. C'était, ça
il y
n'existait
avait Stéphane
pas.
Stéphane Eicher, c'est
mais c'était pas grand-chose finalement. Quand...
Si, si.
Ouais, oui, j'aime beaucoup, mais vous voyez, qu'on regarde la taille de la Suisse, surtout la Suisse romande, on compare avec les gens qu'on a autour de nous, enfin, c'est relatif, mais il y a quand même à nouveau un phénomène. Je pense que je le mets sur le compte d'une génération aussi. Ben voilà, c'est des gens qui ont plutôt. Des gens, regardons déjà simplement le critère de l'âge, des gens trentenaires, quadragénaires. Le monde a changé aussi, on vit aussi d'une façon différente, il y a d'autres référents culturels, il y a d'autres goûts. On est aussi. On va pas s'apesantir sur les complexes, mais les gens se posent peut-être moins de questions quand ils créent maintenant que ce qu'ils faisaient auparavant. Et je crois que de part aussi le monde où on a accès à tellement de choses aujourd'hui, c'est assez incroyable. J'ose pas imaginer un gamin de 12 ans aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'il a, on peut tellement se connecter à toute une série de choses. Il y a des démarches à faire qui prenaient autrefois beaucoup plus de temps. Maintenant, on le fait beaucoup plus
rapidement.
C'est
vrai, techniquement. Et puis par ailleurs, j'ai l'impression que l'image des grands maîtres écrasants s'éloigne, se dit.
Et c'est peut-être pas mauvais, justement.
Tout doucement et laisse un tout petit peu de place.
Peut-être pas pour tout, parce qu'il y a aussi des bornes. Tout, mais... Aujourd'hui, Ray Bradbury est mort. C'est un grand monsieur, il ne faut pas l'oublier, parce que quand je vais chez Payot et je vois qu'il n'y a même pas un bouquin dans les étagères.
Mais il faut aller tirer l'oreille.
Ouais, et c'est ce que je leur dis. Mais il y a, je pense, une nouvelle génération, et pas simplement au niveau suisse. Je pense que c'est un phénomène qu'on observe un petit peu partout. Et la comparaison avec la musique, à mon avis, assez claire, surtout. La scène musicale suisse est vraiment intéressante.
Mmh. On revient au bouquin. Mmh. Parce que, alors, 9 nouvelles, 5 et 4. Donc 5 nouvelles très très dures dans l'ensemble, assez violentes, très psychologiques, très violentes, vraiment très sombres. Et puis 4 autres nouvelles dans une deuxième partie du livre qui sont sur un tout autre ton. Alors non pas qu'elles soient plus douces ou plus gentilles, c'est pas du tout le cas au demeurant, mais le ton, l'environnement, l'ambiance, ils sont tout à fait différents. Mmh. Et, Je ne vous connaissais pas, donc je me suis laissé aller à mes intuitions. Vous savez, il y a une première partie qui est placée sous le signe du péché, vraiment du péché, de la noirceur, de la violence, du drame. Et une deuxième partie qui serait placée sous le signe de la rédemption. Alors évidemment, tout cela n'est qu'impression, et d'une rédemption parfaitement vaine, mais avec une volonté, que ce soit par le mot, que ce soit par l'invention d'une sorte de paradis, avec Adam et Ève quand même. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous qui l'avez mis. Je me suis dit, voilà, d'une autre planète sur laquelle débarque une humanité, une centaine de personnes qui viennent tenter de reconstruire à la fois l'humanité dans ses pratiques et dans ses aspirations. Rédemption ratée à chaque fois, mais rédemption tout de même. Volonté.
Espoir de rédemption.
Oui.
Bah, c'est intéressant que vous disiez ça. Enfin, moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. D'abord, le recueil, il est partagé en deux parties. Les 5 premières nouvelles relèvent du fantastique ou du polar. Les 4 autres, véritablement de la science-fiction. Et c'est pour ça que je les ai séparées. C'est parce que je voulais vraiment tirer un trait entre, deux styles... d'écriture, de genres qui pour moi sont vraiment bien séparés, le fantastique et la science-fiction. C'est pour ça que j'ai fait deux parties. Mais en attendant, j'ai pas écrit les 5 premières nouvelles d'un coup et ensuite les 4 autres. C'est à peu près le travail de ces 4-5 dernières années que représente donc ce recueil. Et puis au niveau des thématiques, au niveau du traitement, pour moi, c'était quand même assez mêlé. En fait, je ne me suis pas posé la question dans ces termes. Disons que pour moi, la deuxième partie, c'est de la science-fiction. Quand j'ai écrit ça, je me suis dit, je vais écrire des nouvelles de science-fiction pour des lecteurs de science-fiction avec les codes de la science-fiction. C'est un genre que j'affectionne particulièrement. C'est le premier genre que j'ai aimé en littérature, en cinéma aussi. Et puis, voilà, je voulais me faire plaisir, partir sur des idées que je jugeais extrêmement originales. Enfin, extrêmement originales. Disons qui me faisait marrer, moi. Que je trouvais original du haut de ma petite culture de science-fiction, disons. Et puis, je n'avais pas dans l'idée de faire des textes plus happy ou plus joyeux ou plus plein d'espoir que dans les autres textes. Mmh. Peut-être que dans les premiers textes, je me suis plus laissé aller. J'étais moins vraiment dans la structure, parce qu'il y a des parties très hard-boiled, pour reprendre ce terme, très polar, où on est à la première personne du singulier, où le personnage se lâche,
où il commence à
parler. Il y a des flics, je parle de moi, je suis
urbain.
Dans la rue, qu'est-ce qui se passe, c'est dans la ville, c'est la nuit, une écriture très sensorielle, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je palpe. Mmh. Alors que dans la deuxième partie, on est plus vraiment dans la construction, en tout cas.
Voire même presque dans la morale.
Ou alors, si c'est le cas, c'était pas du tout voulu. Parce que pour
dit,
moi,
hein,
morale et littérature sont
bien. Il n'y a qu'une de ces nouvelles qui est presque un petit conte philosophique.
D'accord, oui. Trouver les mots.
J'en lis un extrait.
Oui.
On en parle après. On écoutera un peu de musique après aussi. On écoutera Mélodie Gardot, tiens, parce qu'elle a une fort belle voix. 4R de l'an 004. Il ne reste probablement plus grand monde. Cela fait près d'un mois que je n'aperçois plus âme qui vive. Je suis là de rester ici. Tout à l'heure, je retournerai chez moi, dans la cabane, en amont du village. Un long chemin m'attend. Alors je fais provision de baies des bois, de racines et de viande séchée. Pourquoi ? Pour rester digne jusqu'au bout, à même de choisir le lieu et les modalités de mon départ. Xin Sheng a eu raison de nous. Elle s'est sentie menacée, et je ne peux guère l'en blâmer, qui ferait confiance à une espèce comme la nôtre, une espèce capable d'autodestruction, une espèce qui use sa planète mère jusqu'à la moelle, la saccage, la pille, la contamine, puis telle la plus ignoble des vermines, quitte le navire avant le naufrage. Car nous n'étions ni les premiers, ni les derniers à nous envoler, juste des privilégiés à qui l'alliance eurasiatique avait cédé un astre trop exigu pour accueillir l'ensemble de ses habitants. Xin Sheng ressent tout cela. Elle lit en nous comme dans un livre ouvert. Xin Sheng, c'est une planète.
Oui.
C'est le nom de la planète avec son soleil.
Xiaozhi, c'est le nom du soleil. Oui, bon, je vais faire la chinoise. Parce que
vous parlez chinois.
Mais j'ai fait des études de chinois, en fait, de sinologie à l'université de Genève. Mmh. Donc là, je me suis lâché, je me suis fait plaisir. C'est des colons qui partent sur une planète très lointaine, enfin pas si lointaine que ça, elle est à 15 années de lumière d'ici.
Oui, c'est vrai, une petite hibernation,
voilà.
On n'en parle plus.
Et du coup, c'était un chinois qui était à la tête de ce projet absolument dantesque. Mmh. Et pour lui faire honneur, ils ont gardé le chinois comme langue officielle. Donc voilà pourquoi on retrouve le chinois pour les astres, pour les jours de la semaine.
Donc c'est Yi, R, San, Si, Wu. Allez-y.
Donc c'est Yi, R, San, Si, Wu. C'est 1 à 5. Quoi.
Si, Wu.
Oui.
Xin Sheng, donc. Mais je ne le fais pas bien.
Xin Sheng.
Xin Sheng.
Ça veut dire nouvelle vie.
Xiao.
Xiaozhi, c'est le petit soleil.
C'est pas facile, le chinois.
Le chinois, ça va. Oui, au niveau de la prononciation, c'est difficile, mais la grammaire n'est pas si compliquée que ça.
Enfin, on a
des difficultés, comme toutes les langues. Quoi.
On écoute Mélodie Gardot.
Oui.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way. This is such a lovely way to be something. Cada día que te recuerdo, admiro un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado, donde fuimos un regalo divino.
Mélodie Gardot, après un petit détour au Brésil, vraisemblablement, on fait un petit tour sur la route.
Infotrafic, RTS.
Sur la 12, Fribourg-Bulle, un bouchon est toujours signalé entre Fribourg-Sud et Matran en direction de Bulle suite à un accident. Samuel Meurier-Genoux, il ne faut pas manger en régie. Ça, on te l'a déjà dit. Lucas Moreno, mm-hmm. Ce n'est de loin pas votre premier livre, et probablement pas le dernier.
Si, c'est le premier quand même. Hein. Pas la première publication, mais le premier livre. J'ai publié une dizaine de nouvelles avant ça.
Ah, c'est le premier livre véritable.
Voilà, ouais.
Génial. Ça fait bizarre.
On est content, c'est un événement. Le premier d'une longue série, j'espère.
Ouais. Enfin, comme vous avez décidé de faire de l'écriture votre vie, vous avez des choses en préparation ?
Oui, alors là, je suis en train de travailler. Enfin, j'ai fini un projet de bande dessinée, donc c'est une trilogie de science-fiction.
Donc un scénario ?
Ouais, j'ai fait toute la partie conception d'univers, scénario, storyboard, script, tout ça. J'ai trouvé un dessinateur, donc tout est prêt, le dossier, c'est en attente chez des éditeurs. Ensuite, j'ai
un roman. C'est qui le dessinateur ?
Le dessinateur, il est pas connu. Il s'appelle
mais
Thomas Guitonon, il est très talentueux, mais il n'a pas encore publié de bande dessinée. Mm-hmm. Il est à Paris. Sinon, j'ai un projet de roman adulte, dark, fantastique, bizarroïde, lynchien, dont la deuxième nouvelle...
Lynchien, ça veut dire David Lynch.
Oui, hein, David
pour
Lynch.
Pour ceux qui ne suivent pas tout à fait.
Effectivement. Donc, la deuxième nouvelle du recueil, Le meilleur ville du monde, faut le prononcer à l'américaine, ça se passe dans cet univers, dans Angèle-sur-Coffrane, qui est la base.
Formidable nouvelle aussi, d'ailleurs.
Bon, c'est très encourageant. Je travaille sur un roman, justement.
Angèle-sur-Coffrane, alors je conseille la lecture de ce petit village suisse, Angèle-sur-Coffrane. Ouais. Un endroit assez singulier, tout de même.
Tout à fait.
On n'ose pas croire que ça puisse exister en Suisse, d'ailleurs.
Si.
Non.
Ça n'existe pas en Suisse.
Mais
si. Je vous laisse juger. Et puis, troisième chose, je travaille sur un roman jeunesse.
Très bien.
Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai parfois des projets très dark, mais celui-là, c'est un roman jeunesse qui me fait plaisir et avec un happy end.
Voilà.
Tenez-vous bien.
C'est le jeune père.
Difficile à croire.
C'est le jeune père qui parle, là. Qui se dit, mon Dieu, mais
peut-être,
si ma fille tombait sur ça, mais quelle horreur.
Ouais, non,
il faut vite que j'écrive des choses joyeuses et jolies.
Oui,
un peu de morale. Et Utopod ? Non, Utopod. C'est pas vous, Utopod ?
Non.
Moi, en l'occurrence, j'ai été publié aussi par Utopod.
Ah, oui.
mais
je pensais que c'était l'un de vous qui avait fondé
c'est
ça.
Moi, c'est
Lucas Moreno. Je sais pas pourquoi j'avais pensé que c'était vous, du coup. Ça se passe, ça se porte toujours, c'est toujours actif.
Non, alors l'émission s'est arrêtée, mais en revanche, il y a une base de données, enfin il y a le site de l'émission.
Donc c'était sur Internet.
C'était sur Internet, c'est un podcast, c'est-à-dire que c'était des nouvelles lues à voix haute par des comédiens professionnels ici de Suisse romande, et moi je faisais un travail d'édition, c'est-à-dire je cherchais des textes, c'était toujours des nouvelles, je favorisais forcément la forme courte, et puis c'était exclusivement des francophones. Et voilà, quand j'avais choisi le texte, on travaillait sur le texte avec l'auteur, et ensuite il était lu par un comédien professionnel, et puis on le passait sur Internet sous la forme de podcast. Mmh. Donc voilà, pour les gens que ça intéresse, www.utopod.com.
U-T-O-P-O-D, tout simplement.
Exactement. Toutes les nouvelles sont disponibles au format MP3 de manière totalement gratuite.
Génial.
Ouais.
Vous en remettrez d'autres ?
Oui, alors en l'occurrence, oui.
Ah bah vous voyez.
Trois nouvelles qui sont tirées de mon recueil et qui seront disponibles sur mon site, mais également sur le flux du Topod. Voilà.
Parfait.
Donc, pour les gens que ça intéresse.
Singulier pluriel, c'est le titre de ce recueil de nouvelles de Lucas Moreno, paru chez Élise Hélas. Merci à tous les deux. Merci Lucas Moreno. Merci Thibaut Kayser.
Merci.
On va se quitter, on va effacer un peu la noirceur de ces nouvelles avec la voix, mais alors délicieuse, de Tristan Newarn. Délicieuse. Des merveilles en plus, ça s'appelle. Vous allez voir, c'est charmant. C'est joli.
Laisse-moi le temps de sortir de mon grand sommeil. La rosée s'évapore, les nuages se démêlent. J'ai trop longtemps dormi sur mes deux oreilles. Les lauriers ont séché et j'entends qu'on m'appelle. Laisse-moi le temps de sortir de mon sommeil. Aujourd'hui comme avant, l'amour se porte à merveille, même si la prudence a retardé mon réveil. Un peu de patience et je ferai des merveilles. Laisse-moi le temps de regagner la surface, juste le temps de congédier quelques vieux démons. Des océans, j'en ai vidé, j'ai bu la tasse, refoulé mes angoisses par 100 mètres de fond. Laisse-moi le temps de sortir de mon sommeil. Aujourd'hui comme avant, mon amour se porte à merveille, même si la prudence...
C'est charmant quand même. On dirait un peu Yves Duteil, mais en plus jeune, quoi. C'était Tristan Newarn, des merveilles. C'est extrait de son album sorti l'année dernière, sauf erreur de ma part. Justement. Et c'est la fin de cette émission. Une émission préparée avec les collaborations de Stéphanie Gucci, Nathalie Schauenberg et Samuel Morier-Genoux. Après les informations drôles d'histoire, des histoires choisies et racontées par Lolita. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain. Demain, émission théâtre. Vous écoutez la première, il est tout juste 21h.
RTS Info.